Écoutez la sauce à peur.
J'ai entendu ça aux infos.
Les réseaux sociaux. Ils me font ça. Alors, il est 9h42, démarrage en vrombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Nikos Aliagas n'est pas seulement un marathonien de la télévision et de la radio où il anime de concerts 5 émissions. C'est aussi un stakhanoviste des réseaux sociaux où il converse 20 fois par jour avec son 1,5 million d'abonnés. Il ajoute ainsi une relation intuitue personnelle à ce qu'il fait, à ce qu'on appelait jusqu'à présent les médias de masse. Reste à savoir ce qu'il fait de ce lien et de cette influence. Lui qui donne à voir un aspect si lisse et si contrôlé de sa personnalité, on lui posera la question dès qu'il franchira la porte de ce studio. Ouverture aujourd'hui de son exposition à la Conciergerie de Paris. La photographie aussi, il s'y est mis à travers le numérique. La photographie aussi est pour lui un objet de partage sur les réseaux sociaux où il mêle ses envies et ses vies d'artiste et de star des médias.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
The problem Rwanda has today is how to become a normal, healthy country again after the genocide. And we have.
Comment redevenir un pays normal après le génocide? Au Rwanda, nous avons un feuilleton, une sorte de Roméo et Juliette, raconte le fondateur de Benevolentia, HTF. Double page à lire ce matin dans Libération, une radio qui lutte contre la fabrique des bourreaux. Station née à Sarajevo en 1995. Convaincu qu'il faut parler autrement aux gens, faire le lien entre psychologie, histoire et politique. Cette radio existe maintenant en Afrique, au Rwanda où elle renaît en 2003, au Burundi, au Soudan, au Congo. Média essentiel dans cette partie du continent, elle mène une réflexion sur la mémoire, les génocides, la conscience politique et la propagande.
Avancez, restez bien au milieu des voies. Ma courant la foule est venue prendre ce pauvre.
Pas super rassurant les trucs, hein.
Anthony Bélanger évoquait ce matin dans notre carrefour du 5-7 le texte d'un éditorialiste belge. Il s'adresse à cette femme dont la photo, volée sur la scène du crime hier, a fait le tour du monde. Il lui demande pardon. Pardon parce que sa détresse à elle est devenue en quelques minutes un symbole universel. Elle a réchappé à l'attentat perpétré dans le métro. Elle fait face à l'objectif, le front dégoulinant de sang, une veste jaune moitié arrachée, laissant apparaître son ventre nu et son soutien-gorge. Bonjour Nikos Aliagas.
Bonjour Sonia.
Vous imaginez pas comme je suis contente de vous voir.
Moi aussi, un peu essoufflé mais très heureux.
Cette photo, j'avais envie de vous la soumettre, Nikos Aliagas. Elle nous rappelle cette longue litanie de femmes et d'enfants victimes de tremblements de terre au Japon, au Mexique, de la guerre au Vietnam, toutes ces unes de presse qui ont marqué notre mémoire. Ces hommes, ces femmes, surtout ces femmes d'ailleurs, et ces enfants qui deviennent malgré eux des icônes. Qu'est-ce que ça vous suggère, à vous qui ne volez jamais une photo?
Cette photo est un document, elle fait partie de notre histoire. Finalement, c'est aussi un peu le miroir de notre détresse, notre peur et notre solitude aussi face au terrorisme. Tout le monde est logé à la même enseigne, dénudé de nos certitudes. Cette femme, ça aurait pu être ma sœur, une amie, donc et puis l'autre qui est au téléphone, qui est connecté, mais tellement seul et tellement dépossédé. Donc c'est un grand point d'interrogation.
Et il y a quelque chose pour vous qui relève du malaise à l'idée de s'emparer d'une détresse qui est très intime, qui est très personnelle, d'un moment de souffrance, et puis d'un seul coup d'en faire un symbole universel?
C'est une histoire de légitimité. Oui. Qui peut le faire?
Bah justement.
Celui qui est observateur, celui qui est photoreporteur, celui qui ne vole pas l'histoire, mais qui en est le témoin, et surtout qui le fait pour les autres. Donc, en l'occurrence, on lui demande pas si elle veut être prise en photo, puisque même le photographe est choqué. Mais il veut garder quelque chose pour montrer l'horreur. On le fait pour les autres, pourquoi ne pas le faire pour nous aussi?
Vous, vous avez abandonné votre vocation première, Nikos Aliagas, vous étiez journaliste.
Ici d'ailleurs, dans la Maison Ronde, il y a 30 ans presque.
Mais même vous avez tourné des images comme journaliste. Vous avez abandonné cette vocation de l'actualité. Vous n'osez plus, vous n'osez pas, vous ne vous sentez pas légitime. Il y aurait quelque chose d'indécent à photographier la misère du monde et à faire chanter les candidats de The Voice le samedi soir?
C'est une vraie question. La légitimité, c'est une histoire aussi de lien que l'on a avec les gens à qui on s'adresse. C'est compliqué pour moi, effectivement, d'être d'apparence dans le show business. Bonjour, comment ça va, etc. Mm-hmm. Et puis de photographier, par exemple, un sans domicile fixe, de le poster et de dire aux gens, je dénonce ce qui se passe avec plein de bonnes intentions. Mais le malentendu peut être aussi dans un décalage de perception. Il faut savoir à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse à lui et quand on s'adresse. Donc, je n'ai pas de frustration quant à mon passé journalistique, parce que je pense que je suis encore journaliste d'une certaine façon, mais je ne suis pas dupe, donc je fais attention.
Alors voilà, on va fouiller ce lien justement que vous entretenez avec les gens à travers les réseaux sociaux.
Je vais souffler, pardon,
je vous passe justement un sketch des Guignols qu'on a dû vous passer 20 fois, mais c'est simplement comme
avec
ça.
Plaisir.
Vous pouvez respirer
merci
et boire une gorgée d'eau.
Merci Sonia.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Hey Nikos.
Hey, salut Benji, salut mon pote, lol.
Et qu'est-ce que tu fais toute la journée avec ton téléphone, là, ça a l'air énorme.
Je tweet, Benji, je tweet, grave.
Tu twist?
PTDR, je twiste pas, Benji, je tweet. Du verbe tweeter, je tweet, tu tweet, nous tweetons, qu'il tweetasse.
Qu'il tweetasse, hein. Combien de fois on vous les a ressortis, les Guignols?
Oh, souvent.
1,5 million de personnes vous suivent sur Twitter. Ce qui est plus étonnant, c'est que vous en suivez 55 000. Alors, évidemment, le différentiel peut paraître vertigineux. Mais quand même, Arthur, par exemple, 1,7 million de followers sur Twitter, lui, il en suit 800.
Ouais.
Cyril Hanouna, 3,3 million, lui, il n'en suit que 1,000. Et alors, sinon, on a le pompon, on a le cas d'école, c'est Kanye West. 20 millions de followers sur Twitter, lui, il n'en suit qu'un. Vous savez qui c'est?
Sa femme, non?
Évidemment,
ouais, j'imagine.
Sa femme.
Je suis même pas la mienne, je crois qu'elle n'est pas sur Twitter.
Bref, vous jouez la carte de l'interactivité à fond, vous tweetez pendant The Voice, vous tweetez quand l'émission est enregistrée, vous tweetez même en direct. On vous voit reposer votre portable après les coupures pub,
ouais, c'est vrai.
Nikos Eliagas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus regarder la télé sans avoir un smartphone à la main et qu'on ne peut plus en faire sans avoir un smartphone à la main?
Ça veut dire que le lien a changé, ça veut dire que ça ne peut pas se passer seulement en sens unique.
Ouais.
C'est que je peux proposer, dire bonjour, comment ça va, avoir une promesse. Mais finalement, celui qui regarde la télévision, il veut faire partie intégrante du programme.
Mm-hmm.
Il veut être dans l'histoire. Il ne veut pas seulement être spectateur.
Donc ça devient une offre bilatérale?
Oui, un partage. On dit souvent on vend le rêve. Moi, je crois qu'on partage avant de le vendre. Sinon, il n'est pas crédible.
Parce
sinon,
que vous,
c'est de la pub.
Vous répondez, vous commentez,
vous retweetez.
C'est-à-dire vous êtes dans le salon des gens qui vous regardent en même temps qu'ils vous regardent, ce qui est quand même assez.
Regarde qui? C'est la vraie question.
Alors, qui regarde qui et surtout de qui il s'agit? Parce que vous dites que vous travaillez en miroir, mais est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? C'est-à-dire, sur 8 millions de personnes qui regardent The Voice, qui est sur Twitter? Est-ce que c'est la réalité des Français? Est-ce que c'est la réalité des gens? Est-ce que c'est un vrai baromètre pour vous?
Est-ce que Médiamétrie est un vrai baromètre en sachant que c'est aussi un pourcentage représentatif?
Mm-hmm.
Je crois que le symbole, c'est une personne pour moi, c'est 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes. C'est exactement la même démarche. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu peux ressentir sa façon de percevoir les choses.
Mm-hmm.
Tu peux même utiliser des idées, de l'ironie, de la blague, et l'utiliser dans ton programme. C'est-à-dire qu'il y a une transversalité directe où le spectateur ou le téléspectateur qui était passif, entre guillemets, tout ceci,
on est bien d'accord.
Maintenant est dans l'histoire. Et j'en ai besoin. Il en a besoin, j'en ai besoin.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même là vraiment un trompe-l'œil? Est-ce qu'il n'y a pas quand même là une fantastique paresse journalistique où aujourd'hui un article sur deux démarre par « la twittosphère dit que la twittosphère s'enflamme » et les gens, et les vrais gens et la vraie vie dans les vraies rues, dans les vraies villes, dans les vrais villages où les journalistes sortent de moins en moins.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de très facile et de très trompeur?
Ce sont des vrais gens qui utilisent les réseaux sociaux.
Oui.
Et qui tapotent eux-mêmes sur leur téléphone. Ce sont des vrais gens qui ont besoin de faire partie de l'histoire. Ce sont des vrais gens qui ne veulent pas seulement être de l'autre côté de la barrière. Alors, le sont-ils vraiment? Sont-ils vraiment des protagonistes ou juste un alibi de protagonistes? Moi, je pense qu'à terme, ils le seront de plus en plus. Qu'à terme, on fera l'émission ensemble. Alors, attention à la démagogie, attention au populisme, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on a souvent des dérives, de la complainte permanente, de la critique permanente, mais pas seulement. Parfois, un tweet sur 100 peut être une bouffée d'oxygène et te dire, mais c'est bon, il est là, il est avec nous.
Alors, c'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce que vous faites d'une telle audience? Qu'est-ce que vous faites d'une telle influence? Vous avez un poil d'autodérision. J'ai pas le temps de le repasser ici, ouais. Mais je vous ai surpris en train de chanter au pays de Candy et de le poster sur Twitter.
C'est pathétique.
C'est pathétique. C'est totalement pathétique. Mais ça prouve que vous avez de l'humour sur vous-même. En revanche, vous n'abordez aucun sujet qui fâche, ni avec humour, ni à travers les coups de gueule. Vous ne lancez pas de hashtag, pas de mots d'ordre. Vous dites bonjour le matin. Vous vous émeuvez des attentats.
Je peux pas le faire.
Pourquoi ?
Parce que aujourd'hui, je m'adresse au plus grand nombre. Je suis sur un média qui est familial. Parce que je suis pas dupe. C'est que, évidemment, que j'ai un point de vue. Je peux parler des attentats. Et j'en parle d'ailleurs quand il le faut, mais de façon assez œcuménique. Je ne peux pas rentrer dans un point de vue et dans une ligne éditoriale plus grinçante, plus segmentante. Pas par peur, juste je suis réaliste. Parce que on ne m'attend pas là-dessus, on m'attend dans ma promesse professionnelle qui fait que je suis un personnage public dans quelque chose de plus large.
Mais justement, est-ce que le risque, ce serait pas de casser cette gigantesque machine à audience que vous êtes devenue en télé, en radio et sur les réseaux, puisqu'on peut plus les dissocier. C'est TF1, c'est Europe 1 et c'est les réseaux. Vous êtes devenu un fer de lance pour cette radio et pour cette télévision sur les réseaux sociaux. Il faut pas casser la machine ?
Non, il faut pas la casser la machine, il faut l'étoffer, il faut lui donner du relief, mais il faut le faire progressivement. Vous savez, quand on veut changer quelque chose dans une émission pour que ça marche dans trois semaines ou 15 jours, on commence à tourner un peu la barre petit à petit. Moi, je ne crois pas aux révolutions du jour au lendemain et qui plus est sur des médias aussi versatiles que les réseaux sociaux. Je n'y crois pas. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut construire. Et ce n'est pas à moi de participer à tous les débats politiques.
Alors en même temps, début juillet, vous êtes monté sur une tribune, vous vous êtes adressé à 20 000 Grecs, vous vous avez plaidé le oui au référendum sur l'Europe.
C'est vrai.
Là, on s'est dit, mais il en a vraiment dans le ventre, Nikos Aliagas, et il ne le montre jamais.
Jamais. C'est pas mon rôle.
C'est-à-dire que vous vous émeuvez des attentats, vous parlez de solidarité, réponse du gouvernement, déchéance de nationalité pour les binationaux. Vous l'êtes binational.
Oui, et je prends position là-dessus.
Et vous assistez chaque jour au drame des réfugiés en Grèce. L'attitude du gouvernement français là-dessus.
Et je participe aussi au concert lundi prochain à Athènes en faveur des réfugiés. Et je fais des collectes de fonds. Mais j'essaie de dissocier. C'est-à-dire que quand tu es très très ouvert sur un public, très présent sur un public, et quand je le fais rire tous les soirs avec Andlou, je vous dis, si vous voulez qu'il passe l'étape suivante de The Voice AP1, ça serait presque de mauvais goût de le faire. C'est une histoire de timing aussi, la parole. On prend pas la parole comme ça, juste parce qu'on peut le faire. La liberté de parole signifie aussi qu'on est suffisamment sage pour savoir quand on l'utilise.
Alors, il y a ce que vous écrivez et ce que vous n'écrivez pas. Il y a ce que vous montrez et ce que vous ne montrez pas.
Comme dans la photographie, finalement.
Mais c'est exactement de ça qu'on va parler.
Ben enchaînement. Hey, Sonia, mais qu'est-ce qui nous arrive?
Voilà, partout où vous passez, vous prenez une photo. Je l'ai dit, vous êtes un ancien reporter télé, vous êtes devenu présentateur de JT, chroniqueur télé, animateur de divertissement, homme de radio. C'est avec le smartphone que vous avez redécouvert finalement l'image. Image que vous partagez également sur les réseaux sociaux. 420 000 abonnés sur Instagram, 20 millions de vues sur Flickr, qui est une plateforme de partage d'images. Est-ce que justement cette puissance des réseaux sociaux, ce succès sur les réseaux sociaux, a fait de vous un photographe légitime ? Est-ce que vous en tirer une forme de légitimité de ce succès public.
C'est la photo qui parle, effectivement, ce sont les gens qui m'ont encouragé, je ne veux pas faire démagogie, c'est le public, etc. Mais j'ai gagné en confiance. J'ai toujours aimé la photo, d'une façon ou d'une autre, je suis un amateur, je n'ai pas la carte du photographe professionnel et je n'en ai pas l'ambition non plus. Maintenant, quand j'expose, comme hier à la conciergerie, c'est de l'affect et c'est aussi se dire mais pourquoi ne pas essayer ? Et effectivement, tu commences par quelque chose de très immatériel, qui n'existe pas, qui est juste sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, et puis tu vois ta propre photo de 3,5 mètres sur 3.
C'est ça, parce qu'il faut l'occuper, hein, l'espace de la conciergerie.
Et ça se voit en grand. Le problème, si t'as
des
défauts...
Vous avez choisi des boîtes lumineuses avec vos photos en très grand format. On va y revenir parce que vous avez intitulé cette exposition Corps et âme, et donc c'est une partie de votre travail. C'est pas ce qui est instantanément visible sur Instagram ou sur Flickr, à savoir ces portraits de stars.
Ouais.
Des centaines de photos de portraits de stars shootées en quelques secondes en noir et blanc à la sortie de vos interviews. Ils racontent quoi ces portraits de stars ?
Que derrière le sourire, il y a juste un être humain qui peut être mélancolique, qui peut être profond, qui peut être quelqu'un d'autre.
Eh ben moi je suis pas sûre justement.
Pourquoi ?
Quand je les regarde. Eh ben justement moi je me suis dit il y a toute une tradition du portrait de star, du portrait de célébrité. Et on sent bien que à chaque fois les Leibovitz, les Avedon, les Mondino, les Jean-Marie Paris et tout ça.
Vous citez mes dieux là.
Oui, voilà. Mais on sent bien que pour faire sortir la star de sa plastique promotionnelle, eh ben on lui a mis entre les mains un accessoire. On avait une idée, ouais. on avait une mise en scène mmh. pour le faire sortir de son personnage public. Vous, non. Vous le shootez tel quel.
Moi, je rentre, j'essaye. Après, si je n'ai pas la présomption ou le talent, peut-être, ou l'affirmation de dire que j'arrive à être différent. L'idée, d'ailleurs, c'est pas ça. Je ne veux pas être meilleur ou moins bon, je veux être moi-même. Je vais juste essayer de choper quelque chose dans son regard, de comprendre quelque chose dans son regard. Mais parfois, c'est drôle parce que tu peux photographier une star. Il m'est arrivé de voir celle qui joue dans Avatar, l'immense actrice. Alors qu'elle était enceinte, personne ne le savait. Je l'ai photographiée. Elle était sereine, j'ai trouvé belle. 9 mois plus tard, elle me monte. Et à ce moment-là, en regardant ma photo, je vois que c'est un document parce qu'elle vient de tomber enceinte. Mm-hmm. Donc finalement, c'est aussi un témoignage, c'est un document. J'ai pas d'aspiration artistique dans un premier temps, mais plus d'essayer de les voir différemment. Je leur dis, regardez-vous dans le miroir, qui voyez-vous ? Et pendant qu'ils réfléchissent ou ils essaient de prendre une pause, c'est l'être humain qui m'intéresse. Derrière un Guetta, derrière Leonardo DiCaprio, évidemment, il y a quelque chose de très, comment dire, maîtrisé dans un premier temps.
Absolument.
Mais il y a toujours une faille. Et c'est cette petite faille qui m'intéresse, qui est plus difficile à
Alors, trouver. Le choix de clichés que vous avez opéré pour l'exposition de la conciergerie à Paris, ouais. ce sont plutôt des visages, toujours des visages et des regards, des mains, corps, des gens, de la chair, Nicolas. Aliagas. De la chair, vous êtes un photographe extrêmement...
Vous m'avez appelé comment ? Nicolas Aliagas ?
Non, Nicolas Aliagas.
J'ai entendu Nicolas parce qu'on m'appelait comme ça à Radio France ici.
Quand... C'est vrai ?
Il y a 30 ans, exactement comme ça, j'ai fait un saut dans le
Donc,
temps.
Donc des cadres de plutôt serrés, noir et blanc, ouais. ça vous permet de travailler la lumière, ça vous permet de travailler...
La définition.
Voilà, les textures aussi, la peau, les rides.
J'aime ça.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychopompe ?
Ah, le psychopompe, c'est celui qui accompagne un corps inanimé, un corps de défunt. Mm-hmm. C'est celui qui aussi protège l'âme. Alors, c'est quelque chose de très païen. Il n'y a pas de reconnaissance dogmatique ou religieuse là-dessus. Ça existe depuis la nuit des temps et dans toutes les religions, quasiment. Il y a toujours quelqu'un qui tient la boutique quand le défunt est sur le point de partir. Et dans ma famille, mes grands-parents le faisaient et maintenant, je le fais aussi. Mais voilà, rien que d'en parler,
Alors, je me suis
ça
demandé...
peut devenir pittoresque et ridicule.
Non,
mais c'est,
pas
c'est quelque
du
chose
tout.
De vrai.
Ah non, c'est
J'ai
très,
accompagné
très beau.
Des gens qui m'étaient chers, des amis et parfois des gens que je ne connaissais pas. Je leur fermais les yeux. Voilà, ça fait partie du jeu.
Alors Hermès, dans la mythologie grecque, c'est le fils chéri de Zeus. Et lui aussi, il accompagne les âmes au royaume de son oncle Hadès, aux enfers. Et Hermès, ça m'a amusé de relire quelques textes, parce que Hermès, c'est aussi le dieu des voyageurs, le dieu des voleurs, le dieu des menteurs, et le dieu du commerce.
C'est un roublard, oui.
Et en même temps, c'est le plus sympathique des dieux grecs. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, c'est mon préféré.
Et celui qui a des chaussures ailées.
Exactement. Vous prenez quoi dans ce portrait, vous qui faites à la fois votre numéro de claquette sur les médias commerciaux, tous les jours et toutes les semaines, vous qui parlez aux gens et qui les photographiez, mais qui prenez un peu d'eux aussi pour votre propre business.
C'est pas un business, je les vends pas. C'est un besoin, c'est un partage. En vrai, ce que je garde d'Hermès, si je devais garder quelque chose d'un de mes ancêtres supposés grecs, ce serait sa rapidité. Parce qu'à 9h20, j'étais porte de Pantin et à 9h40, j'étais à Radio France. Donc c'est possible.
Nico Aliagas, aux chaussures et les merci beaucoup
merci
pour ce
Sonia,
sprint.
Merci pour l'accueil.
Merci et à la conciergerie Corps et âme. Ça commence aujourd'hui. C'est à Paris. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la capitale, eh ben, sachez que Nico Aliagas, vous le repérez très très facilement sur les réseaux sociaux et que vous pouvez voir et recevoir ces images. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. On parle de l'ennui au travail aujourd'hui. Ça ne risque pas de guetter Nikos Aliagas. Voilà, ces gens qui ont un contrat de travail, un salaire, mais qui ne font rien de leur journée, pas de mission, rien dans la journée. Ça concerne beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. 01 45 24 7000 pour
Ils vont avoir le temps de vous appeler. C'est juste après les infos. Il est 10h sur France Inter.